Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Les Humains et les Morts Machines à Son, je vous invite à sortir du cadre habituel de l'émission. On parle majoritairement de rock progressif et de rock en général depuis le début de cette émission. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir un petit peu les horizons de cette émission en vous parlant de musique orchestrale, de musique symphonique. Et pour ce faire, je pense qu'il n'y a pas meilleure introduction que d'utiliser la musique du studio Ghibli, composé par le compositeur Joe Hisaishi. Cette musique a bercé l'enfance d'à peu près tout le monde. Et vous connaissez forcément des thèmes des films de Miyazaki qui ont été composés par Hisaishi. Que ce soit Nausicaa de la Vallée du Vent, Le Château dans le Ciel, où nous écoutons actuellement l'introduction, ou même encore Mononoke Hime, Mon voisin Totoro. Vous connaissez forcément les musiques d'Hisaishi. Et Hisaishi fait partie de ces compositeurs modernes qui à la fois perpétuent la musique traditionnelle, de la tradition, on va dire, savante occidentale de la musique orchestrale, et à la fois va associer des éléments très novateurs et très récents dans sa musique. C'est pourquoi je pense que c'est un cas très intéressant à étudier pour vous amener progressivement dans cet univers de la musique orchestrale. J'espère que vous apprécierez du coup cette émission un peu particulière, et que ce nouveau format vous plaira aussi. Cependant, aujourd'hui, je vous propose non pas de vous intéresser à la musique du Château dans le Ciel, mais plutôt à un autre morceau qui, lui, est, je pense, le plus connu de tous ceux que Joe Hisaishi a composé, ce morceau Merry-Go-Round of Life, issu du Château ambulant. Avant de parler de Merry-Go-Round of Life, il est important de parler de la carrière de Monsieur Hisaishi en général. Joe Hisaishi est un compositeur japonais de la deuxième moitié du XXe siècle. Et il n'a pas commencé en tant que compositeur de musique de film, vous en doutez bien. Son premier emploi, c'était pianiste de jazz. Et en tant que pianiste de jazz qui s'est peu à peu tourné vers l'avant-garde, il a commencé sa carrière avec un album de musique minimaliste. Cet caractère minimaliste de sa musique, on le retrouve assez peu en réalité dans ses productions de chez Ghibli, même s'il l'a gardé tout au long de sa vie. La seule partie qui est très marquée par son style minimaliste, ça va être le tout début avec quelques parties de Nausicaa de la Vallée du Vent. Et dans le dernier film de Miyazaki, Le Garçon et le Héron, où on va avoir aussi une bande-son assez minimaliste. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce type-là de bande-son qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est une bande-son tout à fait orchestrale, tout à fait mélodique, qui est dans le prolongement de ce qu'on pourrait appeler la tradition musicale européenne, classique, romantique, etc. Hisaishi ne se cache pas de s'inspirer de compositeurs comme Rimsky-Korsakov. Vous savez, Rimsky-Korsakov, c'est Scheherazade, par exemple, et les contes des Mille et Une Nuits. Il y a chez Joe Hisaishi, du coup, cette tension entre le jazz, la modernité, et la tradition savante occidentale. Et dans ce morceau, qui est Merry-Go-Round of Life, on va pouvoir s'intéresser à la combinaison d'éléments très traditionnels de la musique, à savoir l'orchestration. Ici, on va avoir un piano, et globalement un orchestre à cordes avec quelques autres instruments de l'orchestre symphonique. Et l'harmonie, cependant, qui va, elle, beaucoup plus tirer vers le jazz, avec des accords très complexes, et ça va nous permettre de nous intéresser un peu plus avant à qu'est-ce qu'un accord et comment on construit les accords. Je ne vous fais pas l'affront de vous présenter Merry-Go-Round of Life, mais nous parlons d'abord de sa structure narrative. Merry-Go-Round of Life, contrairement à la plupart des morceaux actuels qui vont être découpés en couplets, refrains, etc. Même dans la musique d'avant-garde, on a toujours cette structure couplet-refrain la plupart du temps. Eh bien, la musique classique ne se compose pas ainsi. La musique classique se compose de thèmes, et ces thèmes vont pouvoir s'enchaîner de manière plus ou moins proche, vont pouvoir évoluer à travers le temps, etc. Et c'est ce voyage-là qui va créer la dramaturgie musicale. Et dans Merry-Go-Round of Life, on a deux thèmes que vous connaissez forcément. Le premier thème, c'est celui-ci. Ce thème-là va être repris plusieurs fois au cours du morceau. Dès les premières notes, on est captivé et on va d'ailleurs s'intéresser à la structure de ce thème un peu plus loin. Mais il y a aussi un deuxième thème dans ce morceau qui apparaît à plusieurs moments et qui va lui aussi avoir sa propre énergie et qui va répondre souvent au premier thème qu'on va appeler thème A. Voici le thème B. Et avec ça, on va avoir un motif qu'on va dire de transition qui va souvent revenir. Je pense que avec ces simples notes, vous avez déjà toute la bande son. Ces caractéristiques de ce film, le château ambulant qui vous revient en tête. Mais maintenant, on va plonger dans comment Hisaishi va arranger ces éléments-là, et comment il va surtout accompagner la mélodie. Parce que ces mélodies sont très simples, très très enfantines quelque part, mais l'harmonie qui va sous-tendre ces mélodies, c'est ça qui va lui donner tout son caractère nostalgique profond. Cette introduction, que vous connaissez forcément, est extrêmement simple en réalité dans sa structure. On va jouer une mélodie, on est en 3-4, c'est-à-dire que on est sur un rythme de valse. Au moment du thème principal, la basse va faire pom, pam, pam, pom, pam, pam, un rythme de valse très classique, et du coup on est en 3-4, 3 temps par mesure. Ce qui veut dire qu'on va jouer en 3 temps. La première mesure, c'est simple, on va jouer une mélodie descendante. Mais au lieu de la jouer aussi simplement, on va à chaque fois rajouter une petite note au-dessus, on va faire un petit ornement, ce qui va donner ce. Et après, un accord sur l'accord de la dominante, c'est-à-dire l'accord le plus tendu de la gamme. On va créer un arpège qui va monter depuis le grave. On a d'abord un mouvement descendant de la mélodie, puis un arpège qui remonte. Ça donne un côté équilibré et aussi un certain côté introductif. Au lieu de jouer simplement sa mélodie, Hisaishi va l'agrémenter. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer simplement la note, il va jouer aussi une tierce en dessous et va créer cette tierce parallèle. Très caractéristique du début de ce morceau. Voilà. Comment on peut assez facilement découper le morceau. Et vous remarquez qu'on est à aucun moment on a joué l'accord de la tonalité principale, mais on entend quand même cette tonalité, et cette tonalité, je vous la donne dans le mille, c'est sol mineur. Une fois qu'elle est bien installée dans nos oreilles, Hisaishi commence à jouer. Une mélodie aussi simple. Appellerait des accords très simples, comme ceux que je viens de vous jouer, qui ne sont pas d'ailleurs pas du tout les accords du morceau. Ça ne marche pas. Hisaishi va en fait ici utiliser des accords qui sont plutôt issus du jazz. Au lieu de simplement nous faire un, il va utiliser une formule très classique du jazz qui est d'ailleurs héritée de la musique classique dont nous avons parlé quand nous avons parlé de Ikose. C'est la progression d'accords qui mène à l'accord du premier degré en passant par le cinquième degré et le quatrième degré ou soit le quatrième degré, soit le deuxième degré diminué en tonalité mineure. C'est ce qu'on appelle le 2-5-1, puisqu'on parle du deuxième. Le deuxième degré, cinquième degré, premier degré. Et le 2-5-1, c'est vraiment la progression d'accords la plus basique et la plus classique en jazz. Et l'intégralité du début du morceau est composée d'enchaînements 2-5-1, qui vont d'abord amener à l'accord de tonique. Puis à l'accord. De tonique du relatif majeur, c'est-à-dire si bémol majeur. Encore un 2-5-1. Alors celui-là. Et là, un 2-5-1 qui mène vers le cinquième degré mineur. Et qui nous ramène avec à la fin ce léger motif qui nous ramène sur le cinquième degré de sol mineur et qui du coup nous donne envie de retourner dans ce thème principal. Et les accords que va employer Isaichi ici ne sont pas des simples accords de trois notes, c'est-à-dire des triades, par exemple. Ce que Isaichi va essayer d'employer ici, ça va être plutôt des accords à 4 voire 5 notes. Le premier accord est un accord de 9e, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement faire... En fait, il va nous jouer un... Cet accord-là. Avec la basse, la tierce, la quinte, la septième et la neuvième. Cet accord... sonne extrêmement jazz, comme vous pouvez l'entendre. Et puis, il va utiliser des accords de septième. D'ailleurs, entendez comme cet accord, au lieu de faire... En rajoutant la septième dans cet accord de sol mineur, Isaichi va créer un son qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus irrésolu, beaucoup plus... pensif. Les accords mineurs avec septième ont ce côté un peu pensif. Et ça crée de la complexité, en fait, et de la densité à cette mélodie qui, en elle-même, est un peu simpliste. C'est d'ailleurs la recette classique de chez Joe Isaichi, créer des mélodies très simples, mais l'harmonie va leur donner toute leur saveur. Il y a, par contre... quelque chose dans ce morceau-là, dans la suite, qui va être assez intéressant, c'est l'utilisation de notes qui sont complètement étrangères aux accords qui sous-tendent la mélodie. C'est-à-dire que... Voilà. Encore un accord de neuvième. Et la joue ici de la septième... leur approche de l'accord de Ré mineur qui est distant de seulement une note, enfin il y a juste une note de différence entre les deux. Et encore une fois, ça donne un côté un peu irrésolu. Et là on a quelque chose d'assez magnifique. On a vraiment cet accord un Do mineur, un cinquième, un 5 majeur, et après un premier degré mineur. C'est ça le 2-5-1 qu'on est censé avoir, sauf que, au lieu d'avoir ce 2-5-1 de manière très simple, on va rajouter cette 11e, c'est-à-dire une note qui est la quarte de la note fondamentale, qui va donner cette grande tension dans cet accord, mais aussi ce côté un peu aérien. Et là aussi, au lieu d'avoir, on a cette tension qui se résout en bas. Et là, on arrive sur l'accord de Ré mineur. Et au lieu de jouer directement l'accord de Ré mineur, il joue un accord de Ré avec une carte suspendue. Cette carte qui va ensuite descendre. Donc, ce que montre ce passage-là de Joe Hisaishi, c'est que derrière cette mélodie extrêmement simple que tout le monde peut retenir et enregistrer dans sa tête, on a en réalité une grande complexité harmonique, une grande richesse même de l'harmonie, qui va donner ce caractère très pensif à ce morceau-là. Et maintenant, on va s'attarder un peu plus, on s'est attardé sur l'harmonie, on va s'attarder sur la structure même de cette phrase mélodique. Et pour ce faire, il faut comprendre le rythme de la mélodie. Le rythme de cette mélodie, c'est pam 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 pam. 1 2 3 1 3 1 2 3 1. Très simple. Et avec une montée puis une montée en arpège puis une descente en note conjointe. Et l'intégralité de la mélodie, ça va être utiliser cette forme-là, ce motif-là, et le déplacer, le transformer dans tous les sens. D'abord, on a le motif. Puis, on a le même motif, mais un peu plus aigu. Là, encore, c'est le même motif. Et cette fois-ci, on va rallonger le motif, c'est-à-dire qu'on fait, au lieu de faire pa 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 pa, pa 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 pa, on va faire pa 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 pa. Vraiment, on va continuer ta pa pa pa, et là on continue le motif, on reprend comme au milieu du motif et on rallonge comme ça la ligne mélodique. C'est ce mouvement là qui va d'ailleurs, cette manière de rallonger la fin dans la troisième répétition du motif, de l'allonger, ça fait très classique. On a une première fois le motif, une deuxième fois le motif, puis on a le motif qui va être légèrement transformé, et une phrase de conclusion. C'est ce qu'on appelle la structure en phrase, la structure sentence, la sentence form des phrases, enfin des thèmes. Les thèmes peuvent avoir deux formes, habituellement en classique, la forme sentence et la forme period. Et ici, on est sur une forme sentence, c'est-à-dire qu'on va avoir motif, continuation du motif et enfin phrase conclusive. C'est vraiment une structure en quatre parties qui va donner un côté avec un élan, qui va vers l'avant, contrairement à la période qui, elle, va avoir un côté plus calme, plus posé. Et donc, avec cette utilisation de la sentence, Hisaishi fait avancer la mélodie, la fait aller de l'avant, et ça va très bien avec ce côté valse et ce motif très simple et enfantin qui reste en tête. On a ce côté un peu dansant dans la mélodie, mais avec les harmonies qui sont en dessous, on rajoute aussi ce côté très triste et nostalgique, mélancolique en fait, qui est au cœur du film. Si vous avez vu le film, je pense que vous comprenez tout à fait d'où vient la mélancolie, d'où vient le thème de mélancolie de ce film. Reprenons donc notre morceau. Premier motif. Prêtez attention aux harmonies. Encore un 2-5-1. Et maintenant, je vais moins parler de l'harmonie. Je vais en parler quand même, moins parler de l'harmonie et beaucoup plus vous parler de la structure narrative. On vient d'avoir une première exposition au piano. Un instrument solitaire. Et là, on a l'orchestre qui rentre. On reste sur le cinquième degré. Et on prend le rythme de la valse. En reprenant le thème A. Ce qui lui donne un côté beaucoup plus dansant. Avec tout l'orchestre, il a beaucoup plus de force. Et on insiste là beaucoup plus sur son aspect dansant que son aspect mélancolique. Le piano était plus sur l'aspect mélancolique. Et ici, on va plus vers l'avant. Et là, on a arrivé à une conclusion sur le motif A. Et on entre enfin dans le thème B. Qui, contrairement au thème principal qui est en sol mineur, est en si majeur. Et ça, ça va lui donner un côté beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. D'ailleurs, cette association de la tonalité mineure et de son relatif majeur, c'est une association extrêmement classique. C'est partout dans la musique classique, c'est-à-dire que vous regardez n'importe quelle sonate de Beethoven, de Mozart, vous allez trouver ça. C'est vraiment extrêmement classique. Et c'est pour ça que je trouve que ce morceau est particulièrement pertinent pour vous introduire la musique orchestrale, la musique dite classique, qui au départ fait particulièrement peur, mais en réalité est extrêmement intéressante. Ce thème... est beaucoup moins dans le mouvement que le premier l'était. Le premier mouvement avait ses grands, le premier thème a ses grands arpèges qui sont beaucoup plus espacés, beaucoup plus spacieux. Ici, on est beaucoup plus dans quelque chose de fin, de contraint dans la même zone tonale, ce qui va lui donner un côté plus beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeux aussi. Et ça se traduit par l'harmonie qui est en dessous. Et là, on est passé en ré mineur, qui donne un côté beaucoup plus sombre d'un coup. Puis on revient vers du sol mineur, puis du fa majeur. Donc on rajoute de la lumière enfin. Là, on est sur un La majeur qui est le cinquième degré de la tonalité de Ré majeur. C'est-à-dire que c'est le cinquième degré du cinquième degré de la gamme de Sol mineur. Ce qui va donner ce... qui est très, très, avec beaucoup de mouvements, très conclusif. Un de ces jours, je vous parlerai de vraiment dans le détail comment fonctionne une progression d'accords. Ça sera vraiment passionnant. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on revient au sol mineur initial. Réécoutons ce passage, mais cette fois-ci avec l'orchestre des violons qui le joue. On va avoir d'ailleurs une orchestration assez simple. On va avoir le violoncelle qui va faire juste la basse. Et par-dessus, violon 2 et alto qui vont vraiment faire les pa 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 dans le pam pa. Ces notes de base vont être plutôt données au violoncelle à la contrebasse et le donné au violon et l'alto avec le violon 1 qui joue la mélodie. C'est une orchestration extrêmement simple qu'on retrouve dans beaucoup de quatuors à cordes, mais c'est aussi cette simplicité qui lui donne aussi toute sa pureté quelque part, et c'est pour ça que ce morceau paraît très épuré aussi. Revenons donc thank you. Et là, le thème revient au piano, sur la partie qui est plus, qui passe en mineur, avec en fond un glockenspiel qui va jouer dans l'aigu, quelques petits motifs, et on va aussi avoir un motif de violon qui va répondre à ce thème principal, ce qui va lui donner du corps. On n'a pas simplement mélodie, accompagnement, basse, on va vraiment avoir mélodie, contre-mélodie. La mélodie, la contre-mélodie, c'est la mélodie qui va y répondre. Le chant, le contre-chant, l'accompagnement et la basse, ce qui crée une texture un peu plus riche et plus complexe. Tout le monde revient à l'unisson. Et puis on a ces descentes de violon. Un unisson entre le violoncelle et le piano d'ailleurs. Le violoncelle dans son registre aigu, hein, écoutez bien, a un caractère très plaintif, très voix humaine qui chante et vibrante. Et en combinant le côté très percussif du piano et ce chant du violoncelle, on obtient ce son assez tragique. Assez déchirant. La mélodie revient enfin au piano. Quand on arrive ici, on a déjà entendu tous les éléments qui vont constituer la suite du morceau, et la suite du morceau va juste constituer ce qui est caractéristique de la musique savante occidentale. C'est ce qu'on appelle le développement. Il y a du développement dans d'autres musiques, dans la musique du monde en général, on a d'autres développements, mais le développement tel qu'on le conçoit dans la musique occidentale est assez unique. La musique des gamelans, par exemple, va vraiment, les gamelans fonctionnent vraiment très différemment de notre musique à nous. En termes de développement, c'est un développement plutôt rythmique. Dans la tonalité, dans la modalité de la musique chinoise, ou asiatique en général, on va avoir autre chose aussi. C'est la polyrythmie qui va caractériser la musique africaine, etc., dans certains développements. Mais l'hétérophonie aussi, les techniques d'hétérophonie. Mais par contre, pour ce qui s'agit, quand il s'agit vraiment du développement, c'est-à-dire du fait de prendre des motifs, de prendre les thèmes, de les briser, de prendre ces motifs, de les tordre, de les faire passer par tout un tas de transformations qui vont les amener à avoir une autre signification pour l'auditeur et à créer le momentum dans le morceau, l'élan qui va amener à la conclusion. Ça, c'est quelque chose qui est typiquement issu de la musique traditionnelle occidentale, enfin de la musique traditionnelle savante occidentale, qu'on retrouve chez Bach, chez Mozart, chez Beethoven, chez tous ces compositeurs-là, même Chopin. Et ce développement-là, c'est vraiment un héritage direct de la musique savante occidentale. Et Hisaishi, qui se rattache énormément à la musique traditionnelle occidentale, eh bien, l'inclut dans son morceau, et c'est ça qui va lui donner ce caractère un peu classique, ce caractère un petit peu familier de la musique classique, et qui fait que ça sonne bien dans une bande orchestrale de film. Nous aurons l'occasion de reparler de pourquoi est-ce que le fait de jouer sur des motifs et de les développer marque particulièrement l'éditeur quand nous reviendrons sur des morceaux orchestraux de musique de film écrits par Howard Shaw ou John Williams par exemple. On a le thème qui revient au piano, mais le piano ici n'est plus aussi pensif qu'au début. Au début, le piano a vraiment un côté très pensif, très méditatif. Ici, il est beaucoup plus affirmé. Et il y a ce dialogue, le thème passe maintenant au corps. Et là, on reprend le motif du début du morceau. Mais, là encore dans une logique de développement, Hisaishi ne va pas reprendre directement, ne va pas. Il va prendre ce même motif et va le transformer et le tordre pour l'amener vers une autre tonalité, la tonalité de Do mineur. Et là, vraiment, on n'est plus sur le même rythme, on est sur pardon, on est revenu sur un, en fait on est plus sur le rythme ternaire classique de la valse, on est sur un rythme binaire. Pa 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 pam pa 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 pam pa 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 pam. Vraiment qui donne ce côté très beaucoup plus marche en fait, un côté beaucoup plus, ça ressemble beaucoup plus à une marche qu'à une danse. Et ce caractère-là va donner un côté plus, on va dire, aventureux, vigoureux, qui va vers l'avant, que le côté contemplatif, un peu plus méditatif de la première partie. C'est ça aussi qui va caractériser le développement. Et on va, au lieu de d'ailleurs un autre point intéressant, au lieu d'utiliser les combinaisons d'instruments, là on va avoir beaucoup moins d'instruments sur le début du développement, pour pouvoir créer de l'espace qui va nous permettre de remonter vers un crescendo orchestral. Mais il y avait autre chose dont j'avais envie de vous parler, c'est les articulations. Le thème principal est joué lié, c'est-à-dire que chaque note, il n'y a pas d'interruption entre les notes. Ce qui donne un côté chantant très cool, la mélodie cool si vous voulez d'une note à l'autre. Alors que ici, on est sur des notes piquées, c'est-à-dire que chaque note est vraiment courte et éloignée les unes des autres. Ce qui lui donne un côté plus sautant, sautillant. Et avec les crécelles derrière. Et là on revient sur quelque chose de lié qui va donner ce côté très on a tendance à dire c'est un peu grandiloquent quelque part, c'est très lyrique. On reprend le motif du départ, on reprend des motifs qu'on a utilisés précédemment et on les amplifie avec l'orchestre. C'est ça le développement. Et là, on arrive sur la dernière partie du morceau dans laquelle on va augmenter encore plus la dramaturgie, le côté dramatique du morceau, tout ça. Le drama en quelque sorte, et pour amener le climax final. Et en faisant pour faire ça, on va changer de tonalité, c'est-à-dire que au lieu de rester dans la tonalité de sol majeur, on va monter vers l'aigu sur une tonalité mineure un peu plus aiguë, la tonalité de la mineure. On va passer de sol mineur à la mineure, ce qui va donner avec un mouvement très particulier qui est en fait un changement abrupt de tonalité, ce qui va d'un coup donner l'impression que la tension augmente mais en même temps que ça s'illumine. Voilà, on a la mineure. Et on a exactement le même tempo au départ. Et là, on termine de transformer le thème. En le jouant au piano avec des ornements. On reconnaît le thème principal, mais on va lui rajouter des notes annexes qui vont le décorer, si vous voulez. D'un coup, on ralentit le morceau, c'est ce qu'on appelle un ritardendo, et on baisse l'intensité orchestrale pour amener à la toute fin du morceau, on va redonner de l'énergie. C'est comme si on tirait légèrement l'énergie en arrière pour la relancer, la laisser repartir directement. On tire. Et on relâche. on ne termine pas sur un. Sur un accord. On termine sur un. Un accord de fa majeur avec septième. C'est-à-dire qu'on a. Avec la tierce, la quinte et la septième, on a l'accord de la mineure, la tonalité dans laquelle on est arrivé, mais on va aussi rajouter ce fa à la basse qui va donner ce côté pensif. Et faire qu'on arrive sur une conclusion qui n'est pas vraiment complètement conclue. C'est-à-dire que c'est pas une conclusion parfaite. C'est très caractéristique du jazz, encore une fois. On est donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a pu voir? La musique de Joe Hisaishi est très marquée par la musique traditionnelle occidentale. On a une structure des mélodies, un usage des motifs, une structure des thèmes, une organisation avec un développement, etc., qui sont très caractéristiques de la musique occidentale. Savante, on va dire, de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle, particulièrement rattachée d'ailleurs à la musique romantique, c'est-à-dire la musique du XIXe siècle et du tout début du XXe siècle. Et on va aussi retrouver les instruments caractéristiques avec les formations classiques, l'orchestre à cordes, etc. Cette musique-là, cependant, est aussi pas mal marquée par le jazz, l'influence du jazz, avec tous ces accords enrichis, ces 2-5-1 dont je vous ai parlé, etc. Ce qui fait qu'elle est vraiment un croisement de deux types de musique différents. Et c'est ça qui lui donne sa saveur assez particulière. C'est ce mélange assez élégant entre le jazz et la musique classique. Et cette musique-là est parfaite pour habiller. C'est-à-dire que elle va habiller le film de manière parfaite. Elle va donner des mélodies simples, chantantes, reconnaissables, mais qui vont, par l'harmonie, se complexifier, prendre en saveur. Je vous invite donc à écoutez abondamment la discographie de Monsieur Joe Hisaishi. Nous nous reparlerons sans doute un jour, il y a de fortes chances pour que ça arrive. Et en attendant, je vous laisse avec Merry Go Round of Life, issu de Howl's Moving Castle, écrit par Joe Hisaishi. Au revoir et au prochain épisode.